Bezrat Hashem, notre troisième cours sur le chapitre 20, page 51. Et dans le Tanya en français, c'est la page
261.
Bah. C'est le chapitre 20, oui. Il nous manquait une partie.
261.
Alors, je fais un résumé rapide. En fait, le thème qu'on a commencé, on a déjà fait deux cours dessus, c'est un thème qui est, je pense, une base de la religion. Donc c'est très important qu'on le comprenne bien, parce que c'est une grande base de la Torah. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de comprendre l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on va recommencer dans l'ordre. C'est quoi le premier commandement des 10 commandements ?
Anochi Hashem.
Anochi Hashem Elokecha. Traduction, je suis
ton Dieu.
L'Éternel, ton Dieu. On avait posé une question, on avait dit, on sait très bien que le premier commandement est la base de toute la Torah. Les deux premiers commandements. Le premier commandement, c'est la base des commandements positifs. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Le second commandement, c'est tu n'auras point d'autre Dieu. Et donc, le premier commandement, c'est pas grave, sinon. Donc le premier commandement. Le premier commandement, c'est la base des commandements positifs. Le second commandement, c'est la base des commandements négatifs. Ça, on l'a expliqué. Maintenant, le problème qu'on a, on a posé une question, ça fait deux semaines. On a dit, comment ça se fait que le premier commandement, c'est je suis l'Éternel, ton Dieu? C'est une information qui est intéressante, qui est importante. Mais on n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'important, qu'on doit se remémorer constamment toute sa vie. Bien sûr que Dieu, c'est notre Dieu. D'accord, pourquoi je crois qu'il y a un autre Dieu? Et on avait expliqué, ça fait deux semaines, que la même question se pose sur le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi le challenge d'un juif? C'est quoi la émouna d'un juif? Sur quoi ça tient? Quand on demande à un juif, on lui dit, définis-moi en un mot le judaïsme, qu'est-ce qu'il te répond? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On avait posé une question très simple, que plusieurs avaient posée. On avait dit, mais en quoi c'est tellement important de rappeler que Dieu est un? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici autour de la table qui pense qu'il y a deux dieux?
Non.
D'accord? Vous me suivez? Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui pense qu'il y a deux dieux? Il n'y a pas. Donc en d'autres termes, la question qu'on pose, c'est sur l'essence même du judaïsme. L'essence même des mitzvot, l'essence même du judaïsme. L'essence du schéma Israël, l'essence des 10 commandements. L'essence des 10 commandements, c'est le fait de rappeler que Hachem est notre Dieu. L'essence du schéma Israël est de rappeler qu'on a un Dieu et pas deux dieux. La question qu'on a posée, on a dit, mais qui c'est qui pense qu'il y a deux dieux? Alors ça, c'est la question qu'on a posée. Et là, on est parti dans un grand commentaire qu'on a commencé à développer. On a expliqué qu'en vérité, quand on dit que, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, ça ne veut pas dire seulement qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il n'y en a pas deux. C'est beaucoup plus fort que ça. Quand on dit l'Éternel est un, ça veut dire qu'un juif, il doit arriver à la Emouna, que tout ce qu'il y a autour de lui, c'est Dieu. Même lui, c'est Dieu. Qu'en vérité, Dieu et le monde, c'est une seule entité. Ça, c'est la conclusion à laquelle on doit arriver. Seulement, pour arriver à cette conclusion, il faut bien développer. D'accord? Parce que c'est très compliqué comme notion. Et ça, c'est la notion du Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Bonsoir. C'est quoi Shema Israël? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire quoi Shema Israël? Shema Israël, ça veut dire qu'un juif, il doit réfléchir et arriver à la conclusion que tout ce qu'il y a autour de lui, c'est Dieu. Vous comprenez que quand on réfléchit comme ça, ça change beaucoup de choses dans notre vie. Quand je réfléchis que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est lié à Kadosh Baruch Hu, ça change beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple quelqu'un, je me suis accroché à quelqu'un. Dans ma tête, avec qui je me suis accroché? Ben c'est moi qui me suis accroché avec monsieur un tel. Mais si on dit qu'en vérité, il n'y a pas monsieur un tel, il n'y a pas toi, tout est Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, tout ça était dominé et était maîtrisé par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Donc tu comprends que quand on réfléchit comme ça, on a une vision qui est complètement différente des choses. Seulement, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que nos yeux et notre cerveau ne réfléchissent pas comme ça. Voilà, par exemple, là ici j'ai M. Bergel, ici j'ai M. Cohen, d'accord, et ici à moi. Et devant moi, M. Benita, etc. Bon, d'accord, voilà. Tout le monde est là. On est différents. Déjà, nos membres sont différents. D'accord? L'œil de M. Benita, il est unique au monde. Il n'y a jamais eu un œil comme ça. Vous savez ça ou pas?
Oui, chacun, il a...
Chacun, il est unique.
C'est comme les empreintes.
D'accord? Alors justement, chacun, il est unique. Parce qu'il parlait dernièrement, maintenant, vous savez, aujourd'hui dans les téléphones, on a la reconnaissance par le pouce, biométrique. Maintenant, ils disent qu'ils vont passer bientôt à la reconnaissance par l'iris. Parce que, par l'œil. Parce qu'il n'y a pas un œil qui se ressemble. De tous les milliards de personnes qui ont été créées depuis la création du monde, il n'y a pas un œil qui ressemble à l'autre. C'est impossible. Alors tu t'imagines, ça c'est juste l'œil ça, j'ai parlé que de l'œil. Alors tu t'imagines, les empreintes, etc., je rentre même pas dedans. Donc ça veut dire, tu dis, mais je comprends pas. On voit bien qu'on est différents les uns des autres. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis, tout est Dieu. Mais non. Il y a des milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'entités qui forment, enfin, je veux dire, qui forment ce monde. Tu peux pas dire tout est Dieu. Donc c'est compliqué. Ça veut dire qu'on va essayer maintenant de réfléchir et de comprendre que même si la réalité ne nous apparaît pas comme ça, en vérité, tout est Dieu. Et en vérité, c'est Dieu qui dirige tout, c'est Dieu qui maîtrise tout, et tout est Dieu. C'est ça, Hachem Echad. Hachem Echad, ça veut pas dire seulement qu'il y a un Dieu. Hachem Echad, ça veut dire que tout est Dieu. Et ça, il faut qu'on développe.
Si c'est tout est Dieu, alors pourquoi à ce moment-là on a des problèmes, des mauvaises
vous
choses
avez raison.
Qui arrivent, etc.
C'est vrai, vous avez raison. C'est une très bonne question. C'est-à-dire que ça, en vérité, c'est une boîte à pendant ce qu'on a ouvert là. C'est très compliqué ce qu'on vient de dire ici.
La deuxième chose, c'est si tout est Dieu, pourquoi on dit qu'on a un libre arbitre ?
D'accord, mais je comprends ta question. D'un autre côté, tu ne peux pas dire que tout est Dieu. Que tout n'est pas Dieu, pardon. Parce que tu ne peux pas dire qu'il y a des choses qui échappent à Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe.
Ah ben oui, si ça lui échappe, donc il me reste le libre arbitre.
Vous comprenez ? Quand vous avez un PDG, il ne peut pas tout maîtriser parce qu'il est limité. Mais si c'est un PDG qui est illimité, ben il a une emprise sur tout. D'accord ? Il maîtrise tout. Il doit tout maîtriser, il veut tout maîtriser, il veut tout gérer. Et d'un autre côté, tu me dis que chaque employé a son autonomie. Alors, il faut se décider.
Ben oui, chaque employé a son autonomie dans son domaine. Et le PDG, il gère...
Alors, je voudrais maintenant qu'on fasse un tour de table. On va poser une question, et j'aimerais entendre vos réponses avant d'avancer. Et par rapport à vos réponses, on va essayer, Bezrat Hashem, de développer. J'ai une question très simple à vous poser. Écoutez la question. Suivez, tout le monde est là. Bonsoir. Razak.
Monsieur.
Bonsoir. Installez-vous.
Il y a du plaisir dans la place.
Alors.
Il y a du don, alors.
C'est pour ça que je suis venu. Mais c'est pas comme il faut.
Alors, est-ce que vous êtes là? Alors, on y va.
À 30 ans.
On va poser une question. J'ai une question très simple à poser. Et je vais faire un tour de tête. Je vais commencer par Monsieur Cohen. Ma question est la suivante. Vous êtes là? Alors, je suis à la page, en français, c'est la page 261. Alors, écoutez bien ma question. Ma question est très simple. Est-ce que, d'après vous, réfléchissez bien à la question, parce que je pense qu'il y aura plusieurs réponses, est-ce que, d'après vous, le libre-arbitre existe? En d'autres termes, est-ce que, d'après vous, le libre-arbitre existe? Et attention, j'ouvre plusieurs pistes. Est-ce que je peux décider de mon destin? Je vais poser la question à Jackie. On commence par Jackie.
C'est quoi le destin?
Est-ce que j'ai réellement un libre arbitre? Ça veut dire, est-ce que je peux moi décider de mon destin? Ou est-ce que c'est pas déjà, tout n'est pas déjà décidé par Dieu?
Je pense que tout est déjà décidé.
Alors, quel est mon libre arbitre alors?
Je fais ce que je peux et Dieu.
Hein? Ah, mais vous savez à quoi... Non, je vais vous dire honnêtement. Ouais. Vous savez à quoi ça ressemble sinon? C'est comme quelqu'un, il se jette du toit. Et il dit, j'ai le libre arbitre. Mais il va se casser la figure. Alors, c'est la même chose. Ma question que je pose, c'est est-ce que, dans la course dans laquelle on est lancé, est-ce que je peux décider d'avoir une vie différente, d'accord, que ce que Dieu a prévu? C'est une question très sérieuse qu'on va en parler tout de suite. Alors, Jackie, qu'est-ce que vous dites? Je sais pas. C'est une bonne réponse, je sais pas.
De répondre à ces questions parce que, en fait, je peux décider de me suicider.
D'accord.
Et est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'il aura décidé? Je sais pas.
Je sais pas. Très bien. J'entends.
Dans cette question, il y a une chose et son contraire.
Bien sûr. Alors, c'est ça ma question.
Alors, donc, on ne peut pas répondre par une réponse. Ça nécessite.
Moi, je demande, Monsieur Benita, ma question, c'est qu'est-ce que vous, Monsieur Benita, vous en pensez? Qu'est-ce que Charles Benita en pense?
Non, vous êtes en train de me dire.
Non, je ne parle pas du Tania. Oubliez le Tania. Je parle de Charles Benita. Qu'est-ce que Charles Benita en pense?
Ben, je dis qu'en. En réalité, d'après ce que vous dites, on n'a pas le libre arbitre.
J'ai rien dit.
Non, le texte.
Non, le texte, il n'a rien dit encore.
Tout est décidé.
C'est le mec tout.
D'accord.
Tout est décidé.
Okay. Tout est décidé.
Dans les...
David.
Il y a un libre arbitre.
Il y a un libre arbitre. Oui. C'est-à-dire, je peux décider ce que je. D'accord.
Je peux décider ce que je veux.
Aurélien.
Oui.
Oui. C'est-à-dire, je peux décider ce que je veux faire, même si Dieu n'est pas d'accord.
Oui.
D'accord.
Moi, je dis non. Si Dieu n'est pas d'accord, si c'est déjà écrit, non, on peut pas décider.
Tu peux rien faire. D'accord. Avner.
Pour moi, on décide de tout, mais dans l'instantané. C'est-à-dire qu'on est lancé sur une route.
c'est-à-dire Dieu nous impulse comme un starting block dans une direction, mais sur le chemin, on fait ses propres choix. On fait ses propres choix, mais le...
Je me casser la figure, mais sur la route, je peux faire des cabrioles.
Je décide pas, par exemple, je vais rencontrer un imbécile dans la rue. Je décide pas de l'avoir rencontré, c'est Dieu qui m'a mis sur le chemin de cet imbécile. Maintenant, j'ai libre arbitre de lui donner une droite, ou alors de...
D'accord. Mais est-ce que j'ai libre arbitre de mon destin?
C'est quoi le destin?
Mon destin?
Non, c'est quoi
le destin?
C'est
non,
faut c'est quoi, hein? Le destin en français, c'est assez large.
Le destin, ça veut dire, par exemple, d'accord? Je sais pas, par exemple, pour donner comme exemple.
Comment le définit le destin?
Je sais pas.
En français, il y a.
Je donne un exemple. Par exemple, imaginez par exemple que ce soir, je vais faire une Avera.
C'est pas un destin.
Attends. Est-ce que j'ai réellement le libre arbitre de ne pas faire l'Avera?
Oui, tu peux ne pas la faire.
Le cours précédent, oui.
D'accord, que vous dites, oui.
Tu peux ne pas la faire.
Toi, tu dis.
Moi, je dis qu'on a le libre arbitre, mais le résultat, c'est un même. Mais
quand vous dites. Ah, c'est une bonne question, d'accord, c'est un bon point, ça. Yves, qu'est-ce que tu penses?
Comment vous voulez?
Je sais pas, moi, c'est impossible.
Attendez, mais je veux savoir ce que vous pensez. Yves, qu'est-ce que tu penses?
On a forcément une part de libre arbitre, mais en même temps, on reste dans un libre arbitre circonspect, on va dire.
D'accord, circonspect, limité. Ok. Avraham? Le libre arbitre, c'est la capacité de décider. Est-ce que je peux décider ou est-ce que c'est Dieu qui a tout décidé?
Je peux décider?
Oui.
Je peux. Donc Dieu va me faire des choses qu'il a envie que je décide.
Donc je décide rien.
J'ai l'impression de décider. Ah,
non, rien.
Donc je décide rien. Donc Avraham dit je décide rien. Ok. Avner?
Il y a des cas où tu as vraiment le libre arbitre, il y a des cas où en fait le bon Dieu te met, le potentiomètre dans le rouge.
Donc ça veut dire qu'il y a des cas dans lesquels Dieu te laisse décider, et il y a des cas dans lesquels Dieu ne te laisse pas décider.
Il te donne l'impression de laisser décider, mais il t'a tellement mis entre guillemets des bâtons dans les roues, pour une raison ou pour une autre, en tout cas, qui lui est propre, et il a décidé que tu avais une avéra à faire parce que derrière, tu avais une tchouva à faire. C'est un peu durant que rien, mais voilà. Donc,
non, Hachem, t'amènes jamais à faire des
trucs. T'as les pieds dans le pétrin, c'est toi qui choisis de faire des trucs ou pas, c'est
pas pareil. D'accord, j'entends. Dan.
Tu as dit, est-ce qu'on est maître de son destin?
Oui.
Je me souviens d'une fois, en 2002, d'un équipementier qui disait maître de notre destin, c'était pour l'équipe de France, qui arrivait balèze, contente, sûre d'elle, et qui a perdu au premier tour. Donc je ne sais pas si on est...
Bien vu. Marcel?
Non, moi je dis qu'on n'est pas maître de son destin, je dis qu'il est écrit et que ce qui doit arriver...
Ok, et est-ce qu'on a le livre vite?
Mecto. Oui, on a le livre vite, oui, l'individu, on l'a.
D'accord, et vous, M. Berger, que vous dites?
Alors, le livre arbitre là et on peut contrôler son destin. Sachant que si tu définis le destin comme étant un chemin idéal que Hachem te donne, libre à toi de le prendre ou de ne pas le prendre. Maintenant, il te donne, comme tu as dit, à maintes reprises, différents éclairages, des petits signes pour te dire, attention, si tu restes pas dans le bon chemin là, voilà ce qui risque de t'arriver. Donc, le libre arbitre, il te l'a donné pour que tu puisses gérer ces situations là. Donc, globalement, on a cette possibilité d'orienter.
Destin. D'accord. Ok. Bon, Rabotai, j'ai entendu vos réponses. Maintenant, on va dire les Chaïm et on va commencer à développer. Alors, la réponse en deux mots. Messieurs, vous entendez?
Mais on est manipulé.
Attendez. Messieurs, est-ce que vous écoutez la réponse? Alors, ouais. La réponse en deux mots. Nous avons le libre arbitre. Et on est obligé de dire qu'on a le libre arbitre. Pourquoi? Parce que sinon, on ne peut pas nous récompenser, on ne peut pas nous punir. D'accord? Pourquoi Kadosh Baruch va nous récompenser? Pourquoi quand je fais une mitzvah, je fais plaisir à Dieu? Parce que j'aurais pu décider de ne pas la faire et je l'ai fait. Donc ça veut dire que Dieu m'a donné une capacité de décision. Maintenant, plusieurs ont fait remarquer à juste titre, ils ont dit oui, mais cette capacité de décision, elle est souvent conditionnée. Par exemple, Dieu va faire en sorte que j'ai vu un tel et un tel avant qui vont me conditionner. Ça, c'est possible. Mais la décision finale, on te la laissera tout le temps. D'accord ? On peut donner un exemple, Imaginez par exemple, moi je ne décide pas dans quel environnement je vais naître. Est-ce que je vais naître dans une famille qui est bien, qui est pas bien ? Est-ce que mes voisins seront bien, pas bien ? Ça, je décide pas. Le contexte dans lequel je vais naître, ça je décide pas. Mais la manière comment je vais réagir dans ce contexte, la décision que je vais prendre dans ces situations, Ça, ça m'appartient. Et ça, laissez-moi arriver. Sur ça, c'est écrit clairement en Chassidout. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est écrit clairement en Chassidout. D'accord ? Rabotai. Il faut écouter, c'est des notions importantes. C'est expliqué en Chassidout que même si Dieu a décidé quelque chose, avec mon libre arbitre, je peux aller contre ce que Dieu a décidé. Je veux dire, comment c'est possible ? Moi, l'imbécile, je vais aller plus que ce que Dieu a décidé ? La réponse, c'est que c'est Dieu lui-même qui a créé son système comme ça, qui a fait une possibilité que je peux faire quelque chose que lui n'a pas prévu. On est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord, Abraham ?
Non.
T'es pas d'accord ? Bon, c'est pas grave. Attends, il faut qu'on développe.
Mais il y a un exemple dans la Torah, je ne sais plus dans quel paracha c'était, où Hachem avait dit au départ, voilà les dates que je vais vous donner pour telle et telle fête. Maintenant, les Israël ont dit non, il faudrait qu'on fasse ça, ça et ça comme ça, parce qu'il va y avoir telle contrainte. Et finalement, oui. Hachem a validé le calendrier que nous, on a imposé.
Très bien.
Donc là, tu as un exemple pour...
Donc, ça veut dire que nous avons le livre à vide. Ok, maintenant, on va continuer dans les mots. Alors, dans les mots, on est ici à... Alors, qui est Avout ? Donc, on est à la page 261. Donc maintenant, si vous voulez, ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant, c'est le paradoxe qu'on a ici. Comme M. Benita a fait remarquer à juste titre, il a dit, Mendy, vous venez de dire une chose et son contraire. D'un côté, vous me dites que on décide rien, et d'un autre côté, on dit qu'on décide tout. C'est une chose et son contraire. En fait, vous posez une très très bonne question, parce que c'est la question que pose Al-Morazakan ici. Il dit, c'est le même paradoxe qu'on a par rapport à notre existence, qu'on va développer tout de suite. D'un côté, qu'est-ce qu'on vient de me dire ? On est obligé de dire que c'est moi qui décide, c'est moi qui ai une existence propre, c'est moi qui ai une indépendance, et que chacun il est unique, et que chacun il est différent. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va nous dire une phrase qu'on va dire du Zohar, et qu'on va développer, qui dit « Kula kame kela chashiv » que devant Akadosh Baruch Hu, nous sommes tous insignifiants, comme rien du tout. Donc c'est un paradoxe. Je me pose la question, mais finalement, qui suis-je ? Est-ce que je suis quelqu'un, ou est-ce que je suis insignifiant ? Le même paradoxe, la même question qu'on a posée, est-ce que je décide ou je décide pas? Quand on analyse profondément, c'est exactement la même question à savoir, est-ce que finalement j'existe ou est-ce que c'est une illusion et je n'existe pas? C'est une vraie question que je me pose.
Comment,
c'était un sujet qui était en philo, ça fait quelques années au bac. D'accord? Est-ce qu'on existe réellement? C'est une vraie question. Qui me dit que tu existes? Peut-être c'est une illusion.
Est-ce
que c'est un... Hein ? Qu'est-ce que t'en sais ?
C'est très facile.
Alors vas-y.
Qui c'est qui dit que j'existe, que vous existez ? À partir du moment où un certain nombre de gens ils disent Mendy, je le connais, je vais à Bordeaux, on me dit ah oui, c'est Mendy, oui, du 13e, je le connais, je vais à Perpignan.
Peut-être c'est une illusion.
Alors si plusieurs personnes me donnent ça, alors c'est plus une illusion, c'est une réalité.
Alors on va développer. On va développer. Tout de suite. Donc, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Mais je vous préviens, on a un peu de philo pour aujourd'hui. Alors.
Non mais la question c'est...
Les amateurs de philo vont être servis, les autres ils vont devoir s'accrocher un petit peu.
La question c'est est-ce qu'on a un libre-arbitre sur l'instant ou un libre-arbitre sur le destin, c'est-à-dire sur la durée ?
En général tu l'as.
Normalement tu dois avoir les deux.
C'est toi qui le gères en fonction de...
C'est moi qui décide de ma vie, personne décide de ma vie à ma place.
Pas réellement.
Après, comme il a dit, attention, Abraham, il
décide pas réellement ta vie.
Je peux pas décider, Rabotai.
On te fait rencontrer.
Rabotai, c'est assez complexe comme ça. Alors regardez, c'est très simple. Abraham, il a dit, je peux décider ce que je vais faire. Non, je peux pas décider ce qui va arriver. C'est ce que tu as dit, Abraham, c'est ça ? Qui c'est qui a dit ça ? C'est Abraham ou c'est qui a dit ça ? C'est toi qui a dit ça ? Non. Qui c'est qui a dit ça ? C'est toi qui a dit ça, voilà.
Tout ce que je fais, Dieu le savait avant. Le
résultat était même. Oui, mais encore une fois, bonsoir. C'est très juste ce que tu dis. Mais ça veut dire qu'on peut pas dire que. Alors ça veut dire si Dieu a décidé que je vais faire une avéra, je suis obligé de faire l'avéra maintenant ?
Dieu n'a pas décidé. Dieu ne décide pas. Dieu te dit.
C'est qui le patron ?
C'est lui ?
Alors s'il a décidé, qu'est-ce qu'il a décidé ?
C'est qui a décidé ? C'est qui sait ? Il part avec les cartes avant.
Est-ce que je suis un électron libre qui fait ce que je veux ?
Là, il est en train de dire que le scénario, il est écrit Dieu veut.
Alors dans ce cas-là, mais est-ce que je décide ? Je décide rien alors ? Je décide rien du tout. Après, on me punit, après, on me récompense, je vois rien.
Ah, c'est quoi la tchouva alors ?
Quoi la tchouva ?
Là, Mendy, là aussi, il y a un paradoxe.
Non, mais tu m'as dit, c'est faux.
Parce que.
Il y a ce que tu. est amené à faire, je le sais, tu as Karim Bidon, etc. Je le sais. Mais c'est là parce qu'il sait qu'il n'a pas de récompense.
Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Ma question est qui décide ?
Il le sait, mais il influence.
En d'autres termes, ma question est.
C'est moi qui décide.
En d'autres termes, Rabotaille, ma question est, est-ce que mon ego est quelque chose de réel, ou est-ce qu'en vérité, mon ego n'existe pas, et que celui qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu.
C'est mon ego est réel.
Alors, on a les deux. On a les deux.
Il est réel.
D'un côté, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'une personne fait une avéra, lorsqu'une personne fait une bêtise, il va être puni. Parce qu'on lui dit, pourquoi il va être puni? Parce qu'on lui dit, c'est toi qui as décidé de la faire. Donc, ça veut dire que lui, avec son ego, avec sa personne, c'est lui qui a décidé. Et c'est pour ça qu'il est punissable. Mais d'un autre côté, ce qu'on va développer tout de suite, on sait très bien que plus on avance spirituellement et plus on comprend qu'on n'est rien devant un Kadosh Baruch Hu. Alors il faut se décider. Est-ce que je suis quelqu'un ou est-ce que je suis rien du tout? C'est la même question.
Mais là,
alors on va avancer un peu dans les mots. Bien sûr, ça empêche l'un, empêche l'autre.
Non.
Bah oui, parce qu'il faut se décider, je suis quelqu'un ou je suis personne.
Mais je peux être personne et dire que ce qui, je peux décider de rentrer, je peux me considérer comme rien du tout et éviter de rentrer dans un mur.
J'ai compris, mais dans ce cas-là, c'est pas moi qui décide.
Comment ça, c'est pas toi
qui décide? Si je comprends que je suis rien du tout, je comprends que c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide tout. C'est une grande question. Parce que, je te donne un exemple. Tu sais, imaginons un PDG, un patron. T'as déjà entendu un patron qui dit « moi, je suis rien du tout ». Il peut pas gérer une personne comme ça. S'il dit « moi, je suis rien du tout », ben, il peut pas gérer. Pour gérer, il faut qu'il pense qu'il est quelqu'un. Il dit « moi, je gère, moi, je suis le patron ». Et là, il va gérer. Quand le patron, dès le départ, il dit « moi, je vois rien, je suis une ordure », ben, il peut rien gérer du tout. Si déjà lui-même il se considère pas, comment tu veux que les autres le considèrent? Ben c'est la même chose. Alors, comment ça marche?
D'un côté, t'as l'humilité. Ça, c'est Ravazimov quand j'ai commencé à tomber un jour. Il m'a dit, moi, je suis un juif saint. Tout de suite, la mayonnaise, c'est-à-dire, moi, ma médecine à moi, elle est retournée, mais direct. Quand j'ai vu que mon rave, il était anab du fond du cœur.
Oui, il est rien du tout sans
le personnel. Tout ce qu'il avait dit auparavant,
c'était pas vraiment... S'il a le personnel.
Non pas par Gahava.
Oui.
C'était impossible pour moi de rester des Gahava. Avec le calcul que j'avais juste une seconde auparavant.
Ah, alors.
Tout à l'heure. Est-ce que le patron, s'il se considère pas, il dit pas que...
Alors, Avner, ici, nous donne une notion très importante, qui en vérité, c'est très juste ce que tu dis, Avner. Avner, il nous donne une notion importante. On voit qu'il étudie Hassid Gour, Hachem. Alors, il nous donne une notion importante.
Oui, Avner, oui,
il est là-bas, il est là-bas.
Viens à côté de moi, Avner, viens, viens.
Alors, Avner, il nous donne une notion très importante, qui est en vérité la base de la Hassid Gour. Très juste ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il a dit finalement? Il a dit, c'est pas la question est-ce que je décide ou je décide pas. La question est-ce que j'en suis orgueilleux ou pas? Dans le langage de la Chassidout, on appelle ça la metziout.
Metziout.
Ah, je vais expliquer, parce que c'est une notion très 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 importante. Ça veut dire, dans la pratique, c'est clair que c'est moi qui décide. Parce que sinon, on ne peut pas me punir, sinon on ne peut pas me récompenser. La question, ça, c'est clair. Mais la question est-ce que, à cause du fait que je décide, est-ce que je suis devenu quelqu'un d'orgueilleux, ou est-ce que je reste humble? Et là, je vais vous donner des exemples, tout de suite. Prenez la différence entre un grand sadique et un grand rachat. Quand je dis un grand rachat, c'est une personne qui maîtrise beaucoup de choses. Et un grand rachat, c'est quoi la différence? Les deux, ils maîtrisent beaucoup de monde. Les deux, ils ont un impact sur beaucoup de monde. Et donc, les deux, ils sont conscients de leur pouvoir. Et ils l'utilisent, parce que c'est normal. Ils sont conscients qu'il y a des gens qui les écoutent. Et donc, ils vont utiliser ça dans le bien ou dans le mal. Seulement, il y a une différence fondamentale entre les deux. Les deux décident. Ils vont prendre des décisions pour des gens. Seulement, le rachat, il va le faire avec son ego. Il est orgueilleux. Il est égoïste et il le fait avec son ego. C'est-à-dire, il dit, c'est moi qui décide, c'est moi le patron et c'est son ego qui s'exprime. Il décide avec son ego. Alors que le tzadik, quand il va décider, c'est lui qui va décider. Mais il va pas décider avec son ego. Il va décider avec son humilité. Il va voir une personne en face de lui, il va pas se dire, qu'est-ce que moi je pense qu'il doit faire. Il va se dire, qu'est-ce que je pense qui est le mieux pour lui. Ça change tout, ça. Alors, en quoi ça change tout ce que je viens de dire ici? Ce qu'il a dit à Abner. La question n'est pas est-ce que je suis conscient de mes capacités ou pas. Il faut être conscient de ses capacités. La question est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça me rend orgueilleux ou est-ce que ça me rend humble? Attendez, monsieur Bien, s'il vous plaît. On va avancer un petit peu. J'ai un exemple très simple. On dit dans la Torah que Moshe Rabbeinu va Ish Moshe. Alors, on va pas faire beaucoup dans le texte aujourd'hui parce que c'est une notion très importante. Vous allez voir après, ça va couler comme de la mayonnaise, comme il dit. Mais il faut bien comprendre ces notions-là. On a un passouk dans la Torah qui dit que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble sur terre. Et là, il y a un raccourci que beaucoup de gens font, qui est une grave erreur. Il y a beaucoup de gens qui pensent, qu'est-ce que ça veut dire être humble? C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est penser qu'on est moins que rien. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça l'humilité, même s'effacer. Il dit, c'est quoi l'humilité? Je m'efface, je pense que je suis moins que rien. Vous savez ce que dit le rabbi? Vous savez ce que dit le rabbi? Le rabbi dit, celui qui pense comme ça, non seulement c'est une erreur, mais en plus c'est un affront à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple que Dieu a fait quelqu'un intelligent. Dieu a rendu quelqu'un intelligent. Et que cette personne-là, dans l'humilité qu'on est en train de dire, il va dire, je suis bête. Mais c'est une claque à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, Dieu il t'a rendu intelligent, et toi tu dis, je suis bête. Ça, c'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise. Et je vais vous dire plus que ça. Attendez, rabotaille, je vais aller au bout du raisonnement. C'est pas seulement que c'est de la bêtise, en vérité, c'est même de l'orgueil. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fond de lui, même si ça veut dire aux gens, je suis rien du tout, au fond de lui, il dit, ouais, mais en vérité... Ah, je suis de la bombe. Je suis pas un imbécile, moi. Moi, je suis un imbécile. Je dis à tout le monde, mais moi, en vérité, au fond de moi, je me dis non, mais moi, au fond de moi, je sais que je suis pas comme ça.
C'est de la fausse.
D'accord? C'est de la fausse modestie, exactement. D'où l'expression en français, la fausse modestie. Alors, le rabbi, il dit, c'est pas ça l'humilité. Et Moshe Rabbeinu, la preuve, c'est dans la personnalité de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on dit sur lui que c'était l'homme le plus humble sur terre. Et pourtant, on voit que c'est pas quelqu'un qui avait la langue dans sa poche. C'est pas quelqu'un qui était dans son coin. Quand il y avait un mot à dire, il était là. Quand il y avait un Korah qui se levait, quand il y avait le peuple qui se levait, Moshe Rabbeinu, il savait monter au créneau. Il était là. Alors, il était humble ou pas humble? On a mal compris la notion d'humilité. Être humble, ça veut pas dire s'effacer. C'est pas ça, être humble. Être humble, ça veut dire, être conscient des qualités que j'ai. D'accord? Mais me dire qu'un autre à ma place, il les aurait mieux utilisées que moi. Donc, c'est pour ça que je me dis finalement, ces qualités que j'ai, c'est pas moi, c'est Dieu qui me les a données. Donc, pour qui je me prends? Je vais commencer à m'enorgueillir sur les autres, mais c'est pas à moi ces qualités, c'est à Dieu ces qualités. Donc, quand je comprends ça, j'arrive à réfléchir de manière objective. On n'a pas idée le nombre de machloquettes, le nombre de disputes qu'on peut éviter avec ses amis, avec sa femme, avec ses enfants, si on arrivait à réfléchir de manière objective. On a beaucoup de mal à réfléchir de manière objective. On n'arrive pas. Toujours quand on réfléchit, en général, on réfléchit avec notre ego. Plus un tzadik il avance, et plus on avance dans la vie, et plus on doit apprendre à mettre de côté sa metziout, à mettre de côté son ego, à mettre de côté son orgueil, pour ne pas réfléchir qu'est-ce que moi je pense, pour réfléchir objectivement. Donc là, on a ici une clé.
Est-ce qu'il faut le répéter ça aux enfants?
Il faut répéter à tout le monde ça. Mais il faut se le répéter à tous. D'accord? Ça veut dire. Exactement. Mais on est dans un, aujourd'hui, on est dans un environnement dans lequel tout est comme ça.
Les gens, ils vous écrasent.
Aujourd'hui, on est dans un environnement dans lequel tout le monde est égoïste. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. On raconte qu'une fois, le Ramban, vous savez, le Ramban, il faisait beaucoup de débats avec les goyim, les curés. Il n'avait pas le choix. À l'époque, c'était comme ça. À l'époque, des fois, les curés, ils imposaient les débats, sinon, ils mettaient à mort des juifs, Dieu préserve. Et une fois, le Ramban, il y a une histoire comme ça. Une fois, le Nachmanide, pas Rambam, Ramban, Nachmanide. Une fois, Nachmanide, il était comme ça dans un débat avec un curé. Et c'était un curé qui était très orgueilleux. Juste pour vous montrer. D'accord? Un curé qui était très orgueilleux, mais vraiment très orgueilleux. Alors le Ramban, il a voulu le taquiner un peu, mais doucement, tu vois. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoutez, j'ai une question à vous poser. Vous savez, dans la Bible, vous croyez en l'Ancien Testament? Il dit, bien sûr, l'Ancien Testament, bien sûr. Il lui dit, c'est écrit que Moïse est l'homme le plus humble sur terre. Est-ce que vous comprenez ce texte-là? Que Moïse était l'homme le plus humble sur terre. Qu'est-ce que répond le curé? Le curé répond, il dit, non, moi je comprends pas comment c'est possible. Moi je suis plus humble que Moïse. Et il raconte qu'il s'est retenu de s'éclater de rire devant lui. Il dit, moi je comprends pas ce texte parce que moi je suis plus humble que Moïse. Ça veut dire que, encore une fois, l'humilité c'est pas apprendre à se taire. L'humilité c'est apprendre à mettre sa personne de côté pour continuer à faire ce que je dois faire. Pas ignorer ses qualités. Quelqu'un que Dieu a fait intelligent, beau, riche, etc. C'est des qualités qu'Hachem nous a données et on a l'obligation d'utiliser ses qualités. Celui qui dit, je veux pas utiliser ses qualités, mais c'est un affront à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit d'être comme ça. Par contre, c'est quoi l'humilité? C'est mettre de côté ma metziout, mettre de côté mon ego pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est la même chose. Avec cet élément de réponse qu'on vient de donner, on a répondu à toute la question. Tout à l'heure, on a posé une question très simple. On a dit, mais finalement, est-ce que je décide ou je décide pas? Est-ce que j'existe ou j'existe pas? D'accord? Est-ce que mon ego est là ou mon ego n'est pas là? C'est quoi la réponse? La réponse est, j'existe, je décide. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu attend de moi que progressivement, plus j'avance, et plus je réalise qu'en vérité, les qualités que j'ai ne sont pas à moi. C'est des qualités qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Et donc, je ne veux pas m'enorgueillir de ce qui ne m'appartient pas. C'est comme le valet qui va prendre la Ferrari du patron, il va être là s'enorgueillir. Tout le monde sait que c'est le patron, c'est pas lui. Il n'est pas la Serge, mais bon, cet exemple lui aurait parlé. D'accord ? Ben oui, le valet, il est là, il fait le malin. Mais on sait très bien que t'es un valet, qu'est-ce qu'il fait le remar ici ? C'est la même chose. Pourquoi le tzadik, il est humble ? Il sait très bien qu'il est au volant d'une voiture extraordinaire. Mais il sait très bien, au fond de lui, que c'est pas à moi, c'est à Dieu tout ça. Donc j'utilise un outil de Dieu. Plus on avance dans la vie, et plus on doit comprendre que, certes, on maîtrise la situation avec les outils qu'on nous a donnés, mais en vérité, ces outils-là sont des outils à Kadosh Baruch Hu. Et donc, je maîtrise, mais je casse mon ego. C'est ça le paradoxe.
Pour acquérir ces outils quand même, qui sont à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts.
Évidemment, évidemment.
Alors, c'est
je dois faire. C'est pas une contradiction.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Pour les utiliser.
J'ai pas fait des efforts.
Je fais des efforts pour les utiliser. Mais vous avez raison, 100%. Mais encore une fois, il faut plus on avance dans Chassidut et plus on essaye d'enlever le « j ». J'ai fait, d'accord, le « aïe ». J'ai fait, je pense que... Vous savez, on n'a pas idée dans la Chassidut. Par exemple, vous savez, quand on était à la Yeshiva, quand on parlait au Rav, dès que dans la même phrase tu répétais trop de fois le mot « je », le Rav il t'arrête, il dit « arrête de dire « je ». Moi, président de la République. Moi, président de la République.
Il n'a pas dit « je », il a dit « moi ».
Moi, mais c'est encore pire. Alors.
Vas-y.
Oui.
Je donne 2 minutes.
Vas-y.
Tu as posé la question, est-ce qu'on décide ou pas ?
Oui.
Tu pars du principe qu'on décide, parce que toi, on ne pourrait pas avoir de récompense.
Oui.
Autrement, il n'y a pas de décision. On ne peut pas te punir pour quelque chose que tu ne décides pas, on ne peut pas non plus te récompenser.
D'accord.
Non, la récompense, ce n'est pas une récompense qu'on connaît nous actuellement. La récompense, c'est profiter de la shrina.
D'accord.
On ne peut profiter de la shrina que si sur cette terre, on a également fait des efforts pour s'en rapprocher.
D'accord.
D'accord. Mais c'est pas une récompense. Je te donne. C'est pas une récompense. C'est pas une maison, un truc que tu vas gagner. Si tu as créé le keli sur cette terre pour pouvoir faire de la shrina, tu pourras en profiter.
Très bien.
D'accord.
Oui.
Mais ça n'embête pas de dire que je décide rien du tout.
Bien sûr, je décide. Voilà. Mais bien sûr. Parce que c'est moi qui ai décidé si je fais la mitzvah ou la vera.
On te récompense pas parce que tu as pris la décision.
Non, attends. Oublie la récompense.
Non,
mais je pose la question, est-ce que c'est moi qui ai décidé ? C'est pas moi qui ai décidé ? Après, on m'a récompensé.
On va pas récompenser. Tu as créé le Kelly, tu reçois.
Non, bah, du tout, Akadosh Baruch Hu me récompense.
C'est une récompense.
Bien sûr. Akadosh Baruch Hu te dit Uvacharta Bachaim.
Pourquoi ? Parce que je te conseille.
Oui, mais ça veut dire que j'avais le choix de choisir entre la vie et la mort, j'ai choisi la vie. C'est un choix que j'ai fait. Jackie, c'est quoi un choix d'après vous ? C'est que je pouvais dire non, hein ?
Oui.
Quand, si madame par exemple, elle te demande, elle te dit, est-ce que tu peux aller là-bas ? Et que tu lui réponds non, elle te fait un scandale. Ah, alors, qu'est-ce que je lui réponds ? Je lui dis, mais je comprends pas, si tu m'as posé une question, c'est que tu t'attends à un oui ou à un non. Donc là, c'était non.
Non, mais ça c'est parce que tu
ne vas pas avoir. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu poses une question, il peut avoir un oui comme un non.
Mais non, elle ne te dit même pas ça. Elle te dit
alors sinon, c'est un ordre.
Voilà.
Elle te demande pas ce que je veux dire.
Quand je pose une question à quelqu'un, c'est qu'il peut me répondre oui comme il peut me répondre non. Donc c'est une question qui répond ce qu'il veut. Je suis tributaire de ce qu'il va répondre. Dieu est tributaire de mon choix. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si on n'avait pas fait d'Averot, Machiach, il serait là depuis longtemps. Dieu, il va envoyer Machiach, il ne peut pas l'envoyer à cause de nous. Ça veut dire que l'arrivée de Mashiach, on est tributaire de l'arrivée de Mashiach.
C'est pas qu'on est tributaire.
Bien sûr qu'on est tributaire, ça dépend de nous.
On dépend.
Non, on dépend pas. Dieu veut envoyer Mashiach,
oui,
il a une ère, d'accord, l'ère messénique, il peut pas la lancer parce qu'on n'a pas fait des mitzvot qu'il fallait.
Mais il y a une relation de dépendance.
Donc ça veut dire qu'il est tributaire de nous.
Dès lors que nous, on fait ce qu'il faut, à ce moment-là, lui, il valide.
Oui.
Donc c'est donnant.
Ça veut dire.
C'est comme un travailleur. Un travailleur ne peut pas exercer une activité s'il n'a pas un patron.
S'il n'a pas un patron.
L'employé et le patron pour assurer sa production, il a besoin du travailleur.
Oui.
Donc c'est une relation de dépendance mutuelle. Et nous on est pareil avec HM.
Oui, mais encore. Alors, ok. Non, bien sûr, évidemment, tu as raison. Finalement, c'est HM qui aura le dernier mot. C'est pas la question. Je vais vous donner un exemple. Vous savez ce qu'on peut donner comme exemple ? Je vais vous donner un exemple. Je pense que le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est un petit enfant, un bébé, par rapport à son père ou à sa mère. Qui c'est qui aura le dernier mot ?
Le bébé.
Non, c'est le père. D'accord. Non, attendez, c'est le père qui aura le dernier mot. Mais entre-temps, un bébé, un enfant, qui c'est qui aura ? C'est le père qui aura le dernier mot, c'est évident. Et si c'est pas comme ça, c'est grave.
Un
rabotez, on va se concentrer. Qui c'est qui aura le dernier mot ? Évidemment, c'est le père. Mais d'ici que le père a le dernier mot, le fils, entre-temps, il peut faire de la résistance. Ça veut dire, il peut dire, moi je fais ci, moi je fais ça, et il fait un peu ce qu'il veut au début. Et après, le père, il va le recadrer. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, moi je fais ce que je veux, mais après Dieu va me recadrer. Mais à un moment, je fais ce que je veux. Donc, je décide.
Voilà.
Donc, quelque part, le père est tributaire de son fils. Ou son fils, il va décider tout de suite, lui, ou il va prendre un peu de temps, il va devoir le recadrer pour qu'il décide. Donc là, maintenant, on va revenir un peu sur le texte.
Donc, à la fin, le fils n'a pas de décision.
Si.
Non. Il fait simplement des allers-retours à droite et à gauche.
Il a une décision.
Mais elle est ponctuelle.
La direction finale.
Seulement, c'est ça la différence. La différence, c'est est-ce que, ça veut dire comme ça, c'est sûr que Dieu m'a donné un outil dans les mains. La question est-ce que cet outil, je l'utilise humblement, ou est-ce que cet outil, je l'utilise égoïstement? Si je l'utilise humblement, je fais que ce qu'il faut faire, ce qui est bien. Si je l'utilise de manière égoïste, alors je l'utilise mal. Mais tu as raison qu'à terme, il finira par m'encadrer, je finirai par l'utiliser comme il faut. Mais pendant un certain temps, je peux l'utiliser de manière égoïste. Comme moi, je pense qu'il faut l'utiliser. Et je peux me planter. Ça veut dire que l'ennemi numéro un de l'homme, c'est l'ego. C'est ça ce qui me tue. Dans le langage de la chassidoute, c'est la metziout.
Alors attends.
Voilà.
Regarde, quelqu'un qui est riche. À la barbe de paille, il a fait une Rolex à son fils.
Bon.
Une Rolex, une Ferrari.
Mais ça dépend, si c'est une Rolex du Maroc.
Finalement, il gaspille l'argent, il brûle l'argent à des ch'touillottes, mais grave.
D'accord.
Alors qu'il pourrait faire des mitzvot avec cet argent-là.
Très bien.
Parce que le bon Dieu, tu as dit qu'il allait finir par être cadré, celui-là. Ouais.
Ben oui.
Parce que le bon Dieu, il va le faire ruiner jusqu'au moment
où... Non, il sera cadré parce que finalement, Dieu lui montrera que... Dieu lui montrera qu'il a fait des mauvais choix avec son fils. Et que son fils est devenu pourri gâté et que c'était pas bon.
Parce qu'il n'a pas eu les enjeux.
D'accord.
C'est joli.
Mais concrètement... Ok. Alors, Rabot, maintenant, on va aller un peu dans les mots. Allez, on va accélérer un petit peu. C'est l'heure.
Parce qu'on n'a pas la finalité.
On va avancer un petit peu. Donc, qui hit à vous? Vous avez dans les mots? Allez, Rabotai. Ok.
On va avancer, monsieur.
Alors, qui hit à vous, Rabotai? Pour ceux qui ont le tanier en français, c'est la page 261. Qui hit à vous, Kolo, Lamot, Elioni, Betartoni. Car la création de tous les mondes spirituels et les mondes inférieurs, vechayut am leur énergie, vekuyumam leur existence, amekayimam, shelu yarzeruliot vain veefes kshaya, eino elat varachem vorabuit varech. Comment on peut comprendre que d'un côté on existe et d'un autre côté on est annulé à Kadosh Baruch Hu? Parce que progressivement, c'est ça le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on doit arriver à la Emouna, que la création et l'existence de tout ce qui est autour de nous, les mondes inférieurs, les mondes supérieurs, le Gan Eden, le Olam Haba, le monde ici-bas, le livre qu'il y a devant moi, le iPhone qu'il y a devant moi, la montre, d'accord, le téléphone, le tout, chaque détail de la vie qui est autour de moi, qu'est-ce qu'il fait vivre? C'est le Dvar Hashem, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait vibrer? Qu'est-ce qu'il fait avancer? C'est la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est écrit que Dieu a créé le monde par les 10 paroles. Et c'est expliqué dans le Tanya, dans Shaar Echout Ve'Emouna, on y arrivera Bezrat Hashem dans quelques années. C'est expliqué que vous prenez depuis le Rishon jusqu'au Sheni de la Parasha Bereshit, c'est pas très long.
C'est tout concentré.
D'accord? Tout ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera dans le monde est allusionné dedans. Alors comment c'est allusionné? Pourtant il y a des choses qui sont pas écrites. Avec des guimatrias, avec des combinaisons. Mais tout ce qui s'est passé dans le monde, toute l'histoire du monde, tout est dedans. Toute l'énergie, jusqu'à l'énergie de ce verre qui est devant moi, elle est écrite dans une combinaison qu'il y a dans la Parasha Bereshit. Et ça s'écrit clairement. C'est pas que dans la Chassidoute qu'on dit ça, le Gaon de Vilna dit ça aussi. Et on dit que ça, c'est la force, attendez, ça, c'est la force des grands. D'accord? La force des grands, c'est qu'ils ont la, quand vous allez voir un gadol qui va vous donner une réponse, comment vous croyez qu'il fait? Il trouve la réponse dans la Torah. Comme c'est écrit, le Ramban, il dit, l'ekamile de l'armisa beoraita. Il n'y a pas une chose qui n'est pas à laquelle on ne fait pas allusion dans la Torah. Tout ce qui se passe est allusionné dans la Torah. Il y a des choses qui sont écrites explicitement, d'autres choses qui sont écrites en allusion. Tout est écrit dans la Torah. Tout. Et surtout, jusqu'à la fin du Yom HaShishi. Ça veut dire dans le pile début du Parasha Bereshit, jusqu'au Sheni. C'est pas très long. C'est quelques versets. Jusqu'à la deuxième montée. Jusqu'au Yom HaShishi, Ashabar Elokim, la Asor. Ça c'est Perek Aleph.
Les 6 jours alors.
Tout le chapitre 1, les 6 jours de la création, d'accord. Et le 7e. D'accord, d'accord. Dedans se trouve l'énergie d'Akadosh Baruch. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? Quand un juif, il avance dans la vie, c'est pas qu'il comprend qu'il n'existe pas, il comprend qu'il existe. Mais il comprend que finalement, qu'est-ce qui le fait vivre? Qu'est-ce qui lui donne l'énergie? C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui le fait vivre. Dieu, c'est pas juste qu'il a créé le monde, après le monde il tourne tout seul. Plus on avance dans la vie, et plus on comprend que le monde ne tourne pas tout seul. Et ça, ça casse mon ego. C'est pas que je me dis je n'existe plus. C'est pas qu'un matin je me réveille, je dis bah tiens, j'existe plus. Non, bien sûr j'existe. Mais avec le temps, plus j'avance, au début je crois que je gère, et après quand je comprends que finalement, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron, et c'est lui qui donne l'énergie, alors je comprends que c'est vrai que c'est moi qui décide, mais je comprends qu'en vérité, j'ai pas d'ego, j'ai pas d'existence, et qu'en vérité je suis insignifiant, en vérité je suis tout petit. Et donc c'est comme ça qu'on a solutionné le problème. D'un côté, je suis là, je décide. D'un autre côté, je suis conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide tout derrière. On peut donner plein d'exemples. Je vais vous donner un exemple. Imaginons par exemple un fils qui a une carte bancaire. Et bah, au Hachem, la carte bancaire, elle passe, elle bloque jamais. Il dépense.
Elle est chaude.
D'accord? Elle est très très chaude, bah, au Hachem. Maintenant, cette carte bancaire, le fils, bon, pour lui, c'est qui son Dieu? C'est la carte bancaire. Il sait, dès que j'ai un problème, pac, la carte bancaire, il passe, il swipe, il passe la carte bancaire. Il sait pas que derrière cette carte bancaire, il y a son père qui est là, qui alimente le compte. Maintenant, il peut rester toute sa vie comme ça. Le fils, il sait même pas qu'il a un père, il sait même pas qu'il y a un compte bancaire, il sait même pas ce que c'est. Lui, il sait que quand il y a un problème, il passe la carte bancaire et il achète ce qu'il veut. D'accord? Là, à ce moment-là, le fils, qu'est-ce qu'il se sent? Il dit, mais je suis le roi du monde. Moi, je suis le roi du monde, regarde, j'ai un truc dans la main, avec ça, j'achète le monde. Mais quand après, il va grandir un petit peu, il va comprendre que derrière cet outil, il y a son papa qui est derrière. Il va se dire, mais attends, le roi du monde. Mais bien sûr, j'achète toujours avec la carte, mais le roi du monde, c'est qui?
Mon père.
C'est pas moi, c'est mon père. Pourtant, la réalité est restée la même, c'est qu'il a toujours la même carte avec laquelle il claque. Mais il a compris que c'est pas moi, c'est pas ma carte, c'est mon père qui est derrière, qui allonge. C'est la même chose. Quand on est jeune, quand on démarre, dans la Torah, dans les mitzvot, etc., on croit que c'est nous qui claquons. Je dis, mais c'est moi, je travaille, je gagne, c'est moi. C'est moi qui ai la carte, c'est moi qui paye, c'est moi qui arrose. Mais plus on avance, et plus on comprend que derrière la carte, il y a Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est moi qui décide ce que je fais avec la carte, mais je comprends que derrière cette carte, qui c'est qu'il y a? Il y a Kadosh Baruch Hu. Plus on avance dans la vie, et plus je continue à décider, mais je réalise qu'en vérité, je maîtrise pas. Je réalise qu'en vérité, qui c'est qui donne l'énergie à tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est le Dvar Hashem, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il explique ici. Et c'est ça le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire quoi? Écoute Israël. Hashem Elokeinu, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Ça veut dire quoi Hashem est un? Plus tu dois avancer dans ta vie, et plus tu dois comprendre que tout ce qu'il y a autour de toi, ta vie, d'accord, ta vie, ta famille, ta maison, ta voiture, ton travail, tout, finalement, ça ramène à un seul élément. Cet élément, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est tout derrière. Maintenant, moi, quand je fais pas attention, je peux dire non. Il y a ma voiture, il y a ma maison, il y a ma famille, il y a mon travail, c'est des choses différentes. Mais quand tu vois ce qu'il y a derrière les choses, tu réalises, tu arrives à la conclusion qu'en vérité, tout ça, c'est un seul grand élément qui s'appelle Hashem Echad. Il s'appelle Hashem. D'après le Tanya, et d'après Rambam, ça, c'est la mitzvah de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La mitzvah du Shema Israël, c'est quoi? C'est réfléchir pour comprendre que Akadosh Baruch Hu est derrière tout ce qui se passe. Ça veut dire que chaque fois que vous allez réfléchir, vous allez être en voiture, vous allez être chez vous, vous allez réfléchir, et que vous allez comprendre à un moment, tu vas dire, mais finalement, je maîtrise rien du tout. Dès que tu arrives à ce clic, tu viens de faire une mitzvah de la Torah. Tu viens de faire une mitzvah de la Torah, de comprendre, d'accepter, d'admettre, de réfléchir au fait que Hashem Echad. Maintenant, comme il dit, le Rambam, il dit quelque chose de très juste. Le Rambam, il dit, ça ne veut pas dire qu'on va le comprendre. Parce que notre cerveau n'est pas conçu comme ça. Mon cerveau n'est pas conçu pour comprendre que j'existe sans exister. Il n'arrive pas à comprendre ça. Mais le fait même d'y réfléchir et d'essayer d'y réfléchir, chaque fois qu'on essaye d'y réfléchir, on fait une mitzvah. Ce soir, demain matin, lorsque vous allez faire Shema Israël, Shem Elokeinu, Hashem Echad, et que vous allez bouger votre tête dans tous les sens, en disant Echad, pour réaliser que le monde entier, d'accord, tout le monde, les sept cieux, les quatre points cardinaux, tout, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que vous allez essayer de réfléchir ça, même si on n'arrive pas forcément à le comprendre, on n'arrive pas forcément à le saisir, essayer de comprendre ça, c'est déjà une mitzvah assez, une mitzvah positive de la Torah, une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'il dit ici, alors juste deux secondes, on va avancer un petit peu quelques lignes. Non, juste, parce que je finis le développement. Avec plaisir, vous inquiétez pas, juste après, on fait une pause question. Alors il donne un exemple, pour expliquer ce que ça veut dire. Et c'est là que vous allez comprendre où je vais en arriver. Plusieurs ont posé la question, ils ont dit, mais pourquoi on compare l'énergie divine à une parole? Pourquoi on dit que Dieu, il a parlé? Quel rapport avec la parole? Pourquoi on dit que Kadosh Baruch Hu, il a parlé? Quel rapport avec la parole? Pourquoi on compare ça à la parole?
C'est difficile, disons.
Alors, on va donner un exemple. Écoutez bien, c'est très intéressant comment il dit. Et là, ça veut parler aux hommes et aux femmes aussi, mais vous allez voir, bon, ça, je pense que ça parle un peu plus aux femmes. Mais... Alors, Oulé Machel, par exemple. Kemo ben Nefesh Adam. Donc, il veut donner un exemple à quoi ? Pour te montrer que d'un côté, j'ai une autonomie, mais d'un autre côté, je comprends que je suis insignifiant devant Dieu. Il va donner un exemple très simple. La parole. C'est quoi la parole ? On va prendre l'exemple. Ben Nefesh Adam, dans l'âme de l'homme, que Shemedaber Dibur Echad. Voilà. Imaginez par exemple que de ma bouche, je vais sortir le mot Shalom. Donc, ma bouche, d'accord, donc j'ai mes cordes vocales, j'ai une volonté d'exprimer le mot Shalom. Vous savez que quand on parle, il n'y a pas seulement les cordes vocales qui s'expriment. Quand on parle, il y a eu une Nefesh. C'est quoi la Nefesh ? La Nefesh est une âme qui est au fond de moi, qui a envie de parler. Bon. Maintenant, je vais vous poser la question, d'après vous. Ce shalom que j'ai dit, c'est une énergie que j'ai déployée. Est-ce qu'on peut quantifier cette énergie ? Qu'est-ce qu'elle vaut par rapport au potentiel de parole que j'ai en moi ? Est-ce que le potentiel de parole que j'ai en moi est limité ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il
n'est pas limité, il est illimité.
Qu'on peut vivre, illimité.
Je peux parler tant que je veux. D'accord. Maintenant, je vais poser la question, d'après toi, le mot shalom que tu viens de dire, qu'est-ce qu'il vaut par rapport à ton potentiel que tu as ?
Rien.
Il vaut rien du tout. Il est insignifiant. Il vaut rien du tout. Parce que c'est une parole qui est sortie, mais des paroles, je peux sortir des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Donc il vaut zéro. Il vaut rien du tout. Il est insignifiant. Ben imaginez, c'est la même chose. Pourtant, le mot shalom, tu me l'as entendu quand j'ai dit shalom. Il y avait quelque chose. Bien sûr qu'il y avait quelque chose. Mais quand tu analyses ça par rapport au potentiel, tu dis, mais par rapport au potentiel, c'est rien du tout. Et ben c'est la même chose. Quand on parle par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est encore plus fort que ça. C'est pas seulement que c'est insignifiant, mais c'est que c'est comme si qu'il n'existait pas. Et je vais expliquer ce que je veux dire. Alors, je sais, on m'a donné une fois la définition. Vous savez, on dit qu'il y a l'infini des mathématiciens et l'infini des philosophes. Écoutez bien. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple, alors, c'est quoi l'infini des mathématiciens? L'infini des mathématiciens, c'est-à-dire, on commence à 1, après il y a 2, après il y a 3, après il y a 4, on peut aller à l'infini. C'est-à-dire, on peut augmenter à l'infini sans pouvoir s'arrêter. Mais on a commencé par quel chiffre?
0.
Par un 1. 0, donc 1. Mais seulement, c'est quoi l'infini? L'infini, c'est que le nombre d'unités est infini. C'est-à-dire, on peut le reproduire à l'infini. Donc, il n'est pas limité. Ça, c'est l'infini des mathématiciens. Mais chaque entité à elle-même, c'est une entité.
Et c'est insignifiant par rapport
au... Oui, c'est insignifiant, mais il est quand même quelque chose. Parce que l'infini, finalement, c'est une multitude de...
De finis.
C'est une multitude d'entités. Ça, c'est l'infini des mathématiciens. Mais vous pouvez chercher après, j'avais cherché une fois sur Wikipédia et tout, c'est très très bien expliqué. Il y a ce qu'on appelle l'infini des philosophes. C'est quoi l'infini des philosophes ? Et tu dis non. L'infini, c'est pas que tu prends les entités et tu les reproduis à l'infini. C'est pas ça. L'infini, c'est une nouvelle matière qui s'appelle l'infini. Et que même si tu prends un morceau de cette matière, lui-même il est infini. Dans l'infini des mathématiciens, chaque entité que tu prends, il est un. Il est pas deux, il est pas mille, il est un. Seulement, tu peux le reproduire à l'infini. Donc, c'est un infini quantitatif. Vous suivez ? Dans l'infini des philosophes et dans l'infini de la Torah, dans l'infini d'Akadosh Baruch Hu, c'est un infini qualitatif. Ça veut dire que c'est pas qu'on peut reproduire à l'infini. Chaque parcelle est infinie. Chaque parcelle est infinie. Alors, pourquoi il dit ça ? On reprend l'exemple de la parole. La parole, le mot shalom que j'ai sorti de ma bouche, par rapport à mon potentiel de parler, c'est un infini quantitatif ou qualitatif ?
Quantitatif.
Quantitatif.
Pourquoi ?
Parce que forcément, je suis limité. Même si une personne y parle 24 heures sur 24 toute sa vie, il est forcément limité. Donc forcément, et chaque parole est limitée. Le mot shalom, c'est un mot qui est perceptible, on peut entendre. Seulement, je peux en répéter autant que je veux. Donc c'est un infini quantitatif. Mais chaque Kadosh Baruch Hu, c'est encore beaucoup plus fort. C'est chaque quantité est à l'infini. Pourquoi il explique ça ici ? Pour te montrer que quand plus j'avance dans ma réflexion, et plus je comprends qu'en vérité, je suis insignifiant devant Kadosh Baruch Hu. Je suis rien. Je suis voilou, je suis rien du tout. Pas seulement parce que Dieu peut en refaire des milliards et des milliards comme moi. Parce que je suis rien du tout devant Kadosh Baruch Hu. Je suis insignifiant. Je suis zéro. Et pourtant, je décide.
Mais alors, qu'est-ce que d'accord ça lui apporte alors tout ce qui me
ça, c'est une autre question. Alors, ça, c'est une autre question.
Tous ces efforts.
Ça, c'est une autre question.
Puisque je suis moins que rien.
Là, pour l'instant, je me suis pas mis dans la tête de Dieu.
Ça lui apporte tous ces efforts.
C'est une bonne question que vous posez. Ça, c'est une question qu'on répondra après. Je rentre pas maintenant dans les calculs de Dieu. Pourquoi il a fait ça? Je rentre dans ma définition. Je veux me définir. Est-ce que j'existe ou j'existe pas?
Qui c'est qui peut rentrer dans les calculs de Dieu?
Yeah, parce que Dieu nous a donné des calculs. Il nous a dit pourquoi il a créé le monde, qu'est-ce qu'il attend, quelles sont les buts. Il nous a donné son cahier des charges. Bien sûr. Obligé. Ok, donc je reprends. Alors, bon, c'est un peu philosophe. Ça va, vous me suivez ou pas? Pas trop compliqué? Bon. J'espère que c'est pas trop compliqué. Oui. On fait une pause question. Allez, pause question et les Chaïm.
Par rapport au schéma, par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est pour ça que on doit réciter dans l'oreille d'une personne décédée le schéma islam.
Je sais pas. Oui, c'est parce que c'est l'aïmouna, la base de l'aïmouna juive est dedans.
Parce que par rapport à tout ce que tu as dit, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer de manière rationnelle.
Bien sûr.
Et ce qui permet donc à l'âme de se libérer pleinement.
Oui, 100%. 100%. Monsieur, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Messieurs, d'autres questions?
Oui.
Avraham, on ne t'entend plus.
Marcel.
Ok.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Tu dis que tu es marqué ma
gueule. Oui.
Le passé, le présent et l'avenir.
Oui.
On ne peut pas minimiser des catastrophes qu'on a aujourd'hui?
On n'a pas le droit. Même ceux qui connaissent, qui détiennent l'information, ils n'ont pas le droit de la divulguer.
Mendy.
Tu sais, il y a un dicton comme ça. Le rabbi de Kotz qui disait comme ça. Quand il voyait des gens parler de Mashiach, etc., Mashiach et la République, etc., il donnait des dates. Tu vois, les gens, ils donnaient des dates. Le rabbi de Kotz qui disait, ceux qui parlent ne savent pas, et ceux qui savent ne parlent pas.
Ouais, mais alors, quand Yaakov Avinu il a
absent, ceux qui savent ne parlent pas.
Bon, c'est pour ça que j'en parle pas. Alors.
Ceux qui savent ne parlent pas, et dans le même temps, on me dit, il faut transmettre ce que vous savez.
Oui, oui, oui. Non, mais, la question qu'il a posée, c'est il a dit, puisque tout est écrit dans Bereshit, pourquoi on nous raconte pas pour éviter des catastrophes? Je vais te dire plus que ça, je vais raconter une histoire. Tu sais, lorsque Sharon, à la Vachalom, il était une fois chez le rabbi.
Ah ouais?
Oui. Plusieurs fois, il était chez le rabbi. Et une des fois qu'il était chez le rabbi, il a été reçu par le rabbi en yéridout, en entrevue privée, à la nuit. Le rabbi devait le recevoir à 2h du matin. Il l'a reçu. Et oui, c'était toute la nuit, la yéridout en général. Et le rabbi, il a retenu, et l'autre, il n'en pouvait plus, il était crevé, il était claqué, il avait un vol le lendemain, il n'en pouvait plus, il était claqué. Et le rabbi, il le retenait. Mais il y a une suite dans l'histoire. Alors, finalement, par respect pour le rabbi, il est resté, ils ont parlé, bon, c'était intéressant et tout. À la fin, il est rentré à l'hôtel, il a dit à son aide, il lui a dit, écoute, je sais qu'on a un vol, mais je suis crevé, là, je tiens plus, tu me reportes le vol, je voyage demain, et de toute façon, j'ai rien d'urgent à faire en Israël, tu me reportes le vol. Le vol qui a été reporté, c'est le vol qui avait été détourné. C'est un vol de Air... c'est pas en TV. C'est un autre Air qui avait... C'est un autre vol qui avait... Parce qu'il y avait les informations. Il savait que Sharon allait dedans. Et c'est Sharon qui recherchait. Et d'ailleurs, dès qu'ils ont fait atterrir l'avion... Ils ont détourné l'avion. Et dès qu'ils ont vu dans la liste des passagers qu'il n'y avait pas Sharon, ils ont atterri, d'accord, dans un autre endroit. Et après, ils ont laissé partir. Alors une fois, exactement, c'est l'avion qui avait atterri à Alger. Alors attendez.
Il voyage pas avec les trucs. Il a un avion spécial.
Pas du tout, non. Il était pas premier ministre à cette époque-là. Non, il était un homme politique important. C'est un homme politique. Alors, écoutez l'histoire. Elie Wiesel, il raconte comme ça. Elie Wiesel, il raconte que quelques mois plus tard, il est venu chez le rabbi en Yéchidout, lui aussi. Il est venu plusieurs fois chez le rabbi en Yéchidout. Et il a raconté au rabbi, il a dit, vous savez, les gens dans le monde, ils parlent beaucoup du miracle que vous avez fait, que vous avez sauvé Sharon. Et il a posé une question au rabbi, une question très simple, que tout le monde peut se poser. Il a dit, vous entendez, rabotage. Elie Wiesel, il va entendre là. Alors Elie Wiesel,
c'est intéressant.
Elie Wiesel, il a posé une question au rabbi. Il a dit, écoutez, bon, c'est magnifique ce que vous avez fait, le miracle, vous avez sauvé Sharon, etc. Mais j'ai une question à vous poser, que je me pose depuis longtemps, depuis quelques mois. Si vous saviez que l'avion allait être détourné, pourquoi vous ne l'avez pas dit?
Il n'aurait pas écouté.
Qui va le croire?
Pourquoi vous ne l'avez pas dit?
Ah si, tout le monde.
Bien sûr qu'il l'aurait dit. Ah, non, mais au moins dites-le à Sharon. Parce que le pauvre Sharon, il était là, il était esquinté. Dis-le directement. L'avion que tu prends demain, il sera détourné. Prenez vos précautions, etc. Et voilà. Vous savez ce qu'il a répondu, le rabbi? Il a dit, je ne savais pas que l'avion allait détourné. Je ne savais pas. Il a dit, pourquoi vous l'avez retenu? Il a dit, parce que dans le ciel, on m'a passé un message à ce moment-là. Enfin, je ressentais très fort, comme ça, on s'est dit qu'il ressent. Qu'il fallait que je retienne Sharon maintenant. Et moi-même, je savais pas pourquoi. Seulement, la force d'un tzadik, c'est qu'il sait capter ses messages et il sait les écouter.
D'accord.
Ça veut dire, il sentait, du ciel, on lui a dit, tu retiens Sharon maintenant. Mais là, il sait pas pourquoi. Alors, il a capté ça, il a retenu Sharon. Et c'est seulement après coup qu'elle dit, ah, mais c'est
ça,
pour ça.
Ça arrive à, ça arrive pas.
Ça arrive à un tzadik, ça, non, évidemment, non, évidemment. Pas que, ça peut nous arriver un petit peu, mais pas à ce niveau-là.
C'est
vraiment quand même Elie Wiesel qui a posé cette question, parce que Elie Wiesel,
tu sais ce que c'est qu'un tzadik. Oui, mais non, ça l'intriguait. Il peut poser la question.
Oui, il peut poser la question. Alors, c'est la même chose par rapport à ce que tu dis. Tu sais, c'est comme les codes de la Torah. Il te retrouve des tas de choses dans les codes de la Torah, mais il te les découvre après coup.
Eh oui,
pas avant.
Non, mais ça veut dire qu'il l'avait lu.
Il a reçu un message.
L'intérêt.
Quand... Exactement, c'est vrai. Il y a une intuition. Tu as raison à 100%. Des fois, il y a des intuitions qui nous sauvent.
Le rabbi avait la capacité de voir sa mort.
De
voir sa mort.
Certainement, oui.
Tu sais, je le dis. Une fois, j'assiste un projet à Toronto. Il y a quelqu'un qui disait qu'une fois, il y a une dame qui est venue qui lui a dit donne-moi le numéro du loto. Il lui a répondu mais si je les connais, je ne les donne pas, je joue. Non, mais c'est la vérité, c'est ça. C'est
vous savez, une fois, il y a eu une.
C'est des magiciens.
Une fois, hein, je lisais ça la semaine dernière. Là, juste la semaine dernière. À l'époque, quand le rabbi était un peu plus disponible, il y avait des choses qui se passaient qu'après ne se passait plus, quoi. Quand le rabbi était un peu plus disponible dans les premières années, il y avait une fois une équipe d'étudiants, un groupe d'étudiants, qui sont venus au 770 pour rendre visite au rabbi. Et le rabbi, il les a reçus en entrevue privée, mais c'était une entrevue particulière, c'était comme un interview. Donc c'était comme une interview, c'est-à-dire qu'ils ont préparé des questions.
Un reportage.
Et des questions, vous savez, les étudiants, surtout les étudiants de cette époque-là, il n'y a pas de tabou.
Question-réponse.
Alors, une des questions qu'ils ont posées au rabbi, c'est intéressant parce que les étudiants ont eu la présence d'esprit d'enregistrer. Donc, on a l'enregistrement.
Ah ouais?
Oui, on a l'enregistrement. Super. Ils ont posé 30 questions, et des questions pertinentes, hein, des questions qu'un chassid jamais il aurait osé poser. Une des questions qu'ils ont posées, ils ont dit, on dit de vous que vous faites des miracles. Est-ce que c'est vrai?
À qui dit ça au rabbi?
Il dit ça au rabbi. Allez, qu'est-ce qu'il a répondu?
Non,
je fais pas de miracle.
Non, il fait pas de miracle.
Alors, vous savez ce qu'il a répondu, le rabbi?
Non, il fait pas de miracle.
Il a répondu, il a dit, je ne fais pas de miracle. Il a dit, je fais des miracles comme tous les juifs. Il a dit, chaque juif doit apprendre à être réceptif au message de Dieu. Et quand on apprend à être réceptif, eh bien, à un moment, on commence à capter des messages. C'est même pas de la prophétie. On capte des messages. Dieu nous parle. Quand on apprend à écouter son intuition, on s'approche à Kadosh Baruch Hu, on met de côté son ego, on met de côté, et on écoute, on essaie de voir ce que Dieu veut nous dire. Ben Dieu nous parle. Ouais. Dieu nous parle, à Kadosh Baruch Hu nous parle. Il y a plein de questions là-bas, à l'occasion, je vous les en... parce que des questions intéressantes.
Ah, qu'on les écoute.
Ah ouais, c'est pas mal, des questions. Vous savez, les étudiants de cette époque-là, après 1968, ils y allaient, hein. Il y avait des questions aussi un petit peu tordues comme ça, etc. Mais bon, c'est des questions intéressantes parce que tu vas voir ce que le rabbi va répondre. Des questions que jamais un chassid l'aurait posées. Est-ce que c'est vrai que vous faites des miracles? Est-ce qu'un rabbi peut se tromper? Voilà, question.
C'est pas
écoutez la question.
Que oui.
Est-ce qu'un rabbi peut se tromper?
Évidemment que oui.
D'accord. Qu'est-ce qu'il a répondu à cette question?
Bien sûr.
C'est ce qu'il a répondu le rabbi à cette question? C'est vrai? Est-ce qu'un rabbi peut se tromper?
Je sais pas.
Il a répondu, il a dit comme ça. Il a remontré le crayon. Il a dit, vous voyez ce crayon? Et le rabbi, il écrit beaucoup au crayon. Il y a une gomme de l'autre côté. Il dit, pourquoi il y a une gomme?
Si je me trompe.
Justement. Attendez. Écoutez, c'est très fort ce qu'il a dit. Et est-ce que ça veut dire quand je gomme que ce que j'écris c'était faux? Non. Ce que j'écris c'était peut-être vrai. Mais après avoir écrit, j'ai trouvé autre chose qui est encore mieux. Donc je gomme pour écrire mieux. C'est pas forcément faux. C'est pas besoin de me tromper. Pour effacer. C'est très fort comme réponse.
Pour modifier, oui.
Ça veut dire que des fois dans la vie ça nous arrive que par exemple dans l'éducation des enfants, on change de piste plein de fois. Est-ce que ça veut dire qu'avant on s'est planté? Non, on s'est pas planté avant. Ça va pas, tu t'es planté avant. Ce que tu as fait, c'était bien pour cette époque. Mais à un moment, tu gommes. Pourquoi tu gommes? Parce que t'as réfléchi et t'as trouvé mieux que ce que tu as fait avant. Pas, ça veut pas dire que ce que tu as fait avant, c'était faux. Plein de réponses très très originales. La vérité, j'ai même pas eu le temps encore de beaucoup réfléchir parce que je pense que dans chacune de ces réponses, il y a des messages très puissants.
Je me rappelle maintenant.
Vas-y.
Pour revenir à la première question du cours, est-ce qu'on décide ou pas?
Oui.
C'est une question d'étudiant. Je me rappelle d'une histoire qui est marquée dans la Gemara, je sais plus où, entre deux sages. Qui avaient étudié toute leur vie, qui avaient besoin d'argent, ils voulaient partir faire du business.
Non.
Donc ils partent en chemin, ils prennent la décision, tous les deux, de partir. Ils prennent la décision de partir pour le business. Au bout de 2 heures de marche, ils s'arrêtent pour se reposer à côté d'un mur, ils s'endorment ou ils se reposent, etc. Et ils entendent une discussion entre le mur et l'arbre, je ne sais pas quoi, qui discutaient, et ils se disaient, je vais tomber sur ces deux jeunes, deux personnes qui quittent les bancs de la yeshiva pour aller travailler, et je vais les écraser, je vais les tuer. Bon, qui se réveille, et un il demande à l'autre, t'as entendu ce qui s'est dit, etc. Non, moi j'ai rien entendu. Donc celui qui n'a rien entendu, il est parti, il a fait son business. Et celui qui a entendu, il s'est dit, si moi j'ai entendu ça, c'est qu'il ne faut pas que je parte faire mon business, il faut que je retourne à l'échelle. Là, il doit retourner à l'échelle. Il n'a pas vraiment pris de décision.
Oui, il était conditionné.
Exactement.
Mais il aurait pu décider.
Tout comme ça dans la vie.
Mais il aurait pu décider d'y aller quand même.
Non, mais il aide. Non,
moi, tu veux décider.
Mais c'est ce que je veux.
Mais il aide. Dieu l'a fait revenir.
D'accord, il m'a envoyé un appel de phare.
Il a
envoyé un appel de phare.
Il
n'a pas décidé.
Mais ne pas y aller,
sinon tu.
Oui, mais t'as pris la décision.
Alors,
c'est un choix. C'est un choix dans la vie de
Bacar.
Si Dieu te dit, fais ça, tu vas dire non, je ne fais pas ça. C'est ça qui s'est passé.
Je vais revenir maintenant. Non, je comprends la question.
Ouais.
Je vais revenir maintenant au machal qu'on a donné. Donc je reprends. En fait, on a parlé de beaucoup de sujets, mais il y a un fil conducteur. Le fil conducteur de la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce qu'on existe ou on n'existe pas? Est-ce que j'ai un libre arbitre ou est-ce que j'ai pas un libre arbitre? Est-ce que je suis annulé à Dieu ou est-ce que j'existe? C'est la même question qu'on pose depuis tout à l'heure. La réponse qu'on a donnée, oui on existe, oui on décide. Seulement, qu'est-ce qu'on a dit? Le but d'un juif sur terre, c'est pas d'arriver à la conclusion qu'il n'existe pas. D'être dire je suis un, mais j'existe pas. Le but d'un juif, c'est d'arriver à la conclusion « J'existe, mais je suis annulé à Kadosh Baruch Hu. J'existe, mais je comprends qu'en vérité, derrière la carte, qui c'est qu'il y a ? Il y a Kadosh Baruch Hu qui fait tout tourner. » Et c'est là qu'on a donné l'exemple de la parole. Si tu compares la parole par rapport au potentiel de parler, c'est insignifiant une parole. Ça, c'est un infini quantitatif. Imagine-toi maintenant un infini qualitatif. Je vais aller plus loin que ça. Est-ce qu'on peut par exemple imaginer, regardez, là, pensez dans votre... Maintenant, ne parlez pas. Pensez dans votre tête le mot « shalom ». Vous pensez dans votre tête le mot « shalom ». Cette pensée que vous venez d'avoir, qu'est-ce qu'elle vaut par rapport au potentiel, à la capacité de réfléchir que vous avez ?
Rien.
Là, c'est encore moins rien, parce que réfléchir, c'est encore beaucoup plus vaste que la parole. Et pourtant, qu'est-ce qu'on te dit ? Tu vois bien que cette pensée-là, au moment où elle était là, elle a l'air importante. Ça veut dire avec ça, il veut te montrer le paradoxe. Comment d'un côté, la chose, quand elle est devant toi, elle te paraît importante. Mais quand tu prends du recul et tu vois la chose dans son ensemble, plus tu prends du recul et plus tu comprends qu'en vérité, t'es insignifiant. Le petit enfant qui a commencé à parler quand il était petit, il a dit « baba baba ». Pour lui, « baba baba », il a découvert le monde. Mais plus tu prends du recul et plus tu comprends que c'est rien. C'est rien du tout par rapport à ce que je peux faire. Et ben, c'est la même chose. Un tzaddik, et nous, on doit être comme ça, plus on doit avancer dans la vie, et plus on doit prendre du recul, et plus tu prends du recul, tu réalises qu'en vérité, tout ça, c'est une seule entité qui s'appelle Hachem. Et ça, c'est Hachem Echad.
C'est-à-dire, plus tu t'effaces, plus tu exprimes la volonté de Dieu, quelque part.
C'est pas seulement s'effacer.
S'effacer dans le sens...
C'est soumettre.
Voilà, c'est ça, plus de soumission. Pas dans...
Se soumettre dans le sens annuler mon ego.
C'est ça, annuler
l'ego. Annuler ma metziout. Et c'est très difficile. Parce que malheureusement, ce qui se passe en général, c'est le contraire.
C'est plus difficile.
C'est plus j'avance, c'est plus je réalise qui je suis. Comment ça se fait que quand on est enfant, on apprend beaucoup, et quand on grandit, on apprend moins? Mis à part le fait que les capacités neurologiques sont plus les mêmes, etc. Il y a un problème. Ce qu'on a appris de 0 à 20 ans, d'accord, c'est 1000 fois plus ce qu'on va apprendre les années d'après. Comment ça se fait? On est devenu bête?
Non, forcément. C'est à cause des certitudes.
Voilà. Parce que quand tu démarres comme un enfant, tu connais rien. Et tout est à apprendre. Donc tu es là, tu es réceptif, tu écoutes tout. Et quand tu écoutes, ça rentre. Mais quand à un moment tu crois que tu as tout compris, que tu n'as plus rien à apprendre, ben ça rentre plus. Tu as bouché, tu as dit c'est bon, j'ai tout compris. C'est fini, ça rentre plus. Et c'est ça le problème de la vie. Pourquoi un tzaddik est tout le temps en train d'être réceptif? Parce que il se remplit pas, il n'y a pas les certitudes. Il n'a pas peur de dire demain le contraire de ce qu'il a dit hier. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si demain tu lui prouves que ce qu'il a dit c'est faux, eh ben, il n'a pas de problème avec ça. Moi, je me rappelle quand j'étais à la yeshiva, quelque chose m'avait beaucoup marqué. Enfin, on avait un rave comme ça. Je sais pas si vous voulez déjà raconter cette histoire. Quelque chose nous avait beaucoup marqué. Le rave, il était en train de faire le shiur. Le rosh yeshiva. Et à un moment, il y a un élève qui pose une question. Oh, qui était une bonne question. Le rav, il réfléchit. Il ferme le livre, il dit, c'est une bonne question, toute ma construction est tombée à l'eau. Maintenant, après le cours, on a analysé, l'élève qui a posé la question, il n'a même pas réfléchi à l'ampleur de sa question. Et le rav, il aurait pu l'endormir sans problème. Sans aucun problème. Ça veut dire que, tu sais, c'est facile quand t'as quelqu'un en face de toi, un élève qui pleut, etc. Tu peux dire, non, mais on parlera après, mais tu peux l'écraser, d'accord? Tu peux dire, tu peux lui tourner la tête, sans problème. Et le rav a eu cette humilité, et on était là, de dire, lui, il a compris, honnêtement, objectivement, que son cours ne tenait plus à cause de ça, il a arrêté le cours. Mais je peux vous dire qu'avec ce cours qu'il a arrêté, on a appris plus que tout le cours qu'il a fait. Je sais pas si t'as déjà lu ça, c'est marquant, je peux vous dire, ça marque. Tu vois un rave qui s'arrête comme ça. Ou bien des fois, on avait aussi le rave Kalmensa qui était allé chez Brunois. Bon, c'est pas le cours qui a été arrêté, mais des fois, tu poses une question dans le cours, Et le Rav, il est là, il dit, c'est une bonne question. Ben, on va continuer. Et je dis, il arrête. Il dit, mais quoi, quoi, il arrête. Et c'est quoi? Ça veut dire qu'il a appris qu'en vérité, mais plus tu avances dans la Torah, plus tu comprends que tu es petit par rapport à Kadosh Baruch Hu. Plus tu comprends que tu es insignifiant, que tu es tout petit par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors, je veux juste m'arrêter avec ça, avec un dernier point ici. Il dit comme ça. Il dit, on va imaginer maintenant, je vais terminer avec ça, hein, quand j'ai dans ma tête une pensée qui me vient à l'esprit, une pensée qui n'est pas très cachère, et qu'au moment où cette pensée est dans ma tête, j'ai l'impression que c'est énorme, quelque chose qui est très très grand, que j'arrive pas à m'en sortir. Quand je vais réfléchir que par rapport à Kadosh Baruch Hu, tout ça, hein, c'est insignifiant, c'est zéro. C'est beaucoup plus facile à casser mon Yetzarara et à comprendre qu'en vérité, ce qui me paraissait tellement, tellement compliqué, en vérité, devant un Kadosh Baruch Hu, c'est rien du tout. Ça veut dire quoi? C'est très, très important ce qu'il dit ici. Très souvent, et on va terminer avec ça le chapitre 20, très souvent, ce qui arrive, c'est que les problèmes nous paraissent grands parce qu'on les a rendus grands. Comme dans ma tête, j'ai décidé que le problème est très important, alors je l'ai rendu grand. Mais quand tu prends du recul et tu comprends qu'en vérité, c'est un petit problème, plus tu prends du recul et plus tu comprends que le problème est tout petit, et plus tu comprends qu'en vérité, c'est pas un problème. Alors attention, Monsieur Benita, j'ai pas dit que c'est pas un problème.
Ton enfant est malade, c'est pas un problème.
J'ai pas dit que c'est pas un problème. Il y a toujours des cas où c'est plus difficile. Mais j'ai dit, la force que doit avoir un juif, c'est d'essayer de prendre un maximum de recul et ne pas croire que les problèmes sont insolvables. Quand on est petit, on croit qu'un problème est insolvable. Plus on est grand, plus on n'a pas peur. C'est ça ce qu'on vient d'expliquer ici. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Qu'une parole de Dieu, une parole de moi par rapport à mon potentiel, c'est insignifiant. Pareil, un petit détail dans le monde par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est rien, c'est walou, c'est rien du tout, c'est zéro. Quand je comprends ça, hein, alors je comprends qu'en vérité, tout est rien devant un Kadosh Baruch Hu. Et donc, je vais pas utiliser ça pour faire n'importe quoi. Je vais utiliser ça d'abord pour pas écouter mon Yitzhara, pour comprendre que je suis rien devant un Kadosh Baruch Hu et que j'ai pas intérêt à faire le malin. Je vais utiliser ça aussi pour comprendre que je dois pas me noyer dans un problème. Et quand c'est quelque chose de compliqué, je dois pas me noyer. Alors, vous savez, on connaît.
Quelle est la solution? Quand je suis devant un problème insoluble pratiquement, qu'est-ce que je fais?
Eh bien, monsieur Benita, je vais vous dire quelque chose. Ah, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois.
Tous les jours, il y a des problèmes.
Je vais vous dire quelque chose de très simple. Très souvent, on a la solution du problème, mais comme on est submergé, comme on est dépassé, on n'arrive pas à l'appliquer. Et on n'arrive pas à la trouver, on n'arrive pas à l'accepter. Très souvent, la solution est sous notre nez. La preuve, c'est que tu parles à quelqu'un, il dit, mais la solution est là. Tu dis, mais pourquoi j'ai pas pensé? Tu sais pourquoi t'as pas pensé? Parce que moi, j'étais bloqué par mon problème. Mon problème, il était devant mes yeux. J'ai mis un camion devant mes yeux. C'est normal, je vois plus rien. Quand tu prends du recul, tu vois le problème et tu vois la solution. C'est ce qu'il te dit ici. Donc, ce qu'il te dit ici, c'est que d'un côté, j'existe. Bien sûr, j'existe. Bien sûr, je décide. Mais d'un autre côté, je dois prendre du recul pour m'effacer devant un Kadosh Baruch Hu tout en existant. Et quand je m'efface devant un Kadosh Baruch Hu, automatiquement, je comprends que je suis rien du tout. Et j'ai pas peur. Je comprends, tu veux que j'ai peur. Je comprends que devant un Kadosh Baruch Hu, c'est tout petit. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Donc, c'est ça la manière comment la chassidut a solutionné le problème. D'un côté, j'existe. D'un autre côté, je dois être battel. Je dois être complètement annulé à Kadosh Baruch Hu. Seulement, là, Bezrat Hashem, ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, très intéressant la semaine prochaine, on va analyser plus un chapitre très intéressant, c'est chapitre 21. On va analyser, tu sais. Alors, merci. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va parler de la parole de Dieu. Et là, c'est très important. Pourquoi? Parce que finalement, tout ce qu'on fait, nous, c'est étudier des paroles de Dieu. Vous étudiez le Chumash, vous étudiez une parole de Dieu. Vous étudiez la Gemara, vous étudiez une parole de Dieu. Vous étudiez un Dvar Torah, vous avez la parole de Dieu qui est dans votre tête. On va expliquer à Bezrat Hashem la semaine prochaine la force de la parole en tant que vecteur de communication. Que même avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on utilise comme vecteur de communication? La parole, la pensée. Et même quand je pense à quoi? Je pense à... Avec quoi je pense? Qu'est-ce que j'utilise pour penser?
Langage.
Je pense dans un langage. Donc je pense des mots encore. On retrouve encore les mots.
C'est quoi le sens des corbanotes?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question.
Parce qu'aujourd'hui, tu nous as dit...
C'est les lettres.
Aujourd'hui, on utilise la tefila pour remplacer les corbanotes.
Oui.
Parce qu'on n'a plus de... C'est le mode action que l'on a d'aujourd'hui.
Exactement.
Pour mettre en œuvre les... Ce qui est décidé, donc c'est quoi la
différence? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les corbanotes?
Pourquoi, si tu dis qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans la... Et c'est quoi la différence avec les corbanotes? Parce que dans les corbanotes, en réalité, ils sont là. Si demain on a le Beth Amikdash, d'après ce que je comprends.
On continuera.
La tefila, oui. elle va être complètement changée. Elle va être supplantée par des corbanotes quand ça va être.
Donc, en d'autres termes, je vais un peu modifier ta question. C'est-à-dire, d'un côté, on a les paroles, d'un autre côté, on a les actions, les actes.
Ça, les paroles, aujourd'hui, c'était
la ça veut dire le corban, c'est un acte, la tefila, c'est une parole. Donc, toi, ta question, c'est si on peut suffire des paroles, pourquoi on va chercher les actes?
Ou l'inverse,
des paroles et des actes. Hein, pourquoi on va chercher, d'accord. Si j'ai les paroles, pourquoi je vais chercher les actes?
Non, la question, c'est quel intérêt d'avoir commencé avec le corban? Quel intérêt d'avoir commencé avec le corban?
C'est quoi
la question?
La question, c'est, il a dit, on va étudier la semaine prochaine l'importance de la parole. Dans la tefila, par exemple, il y a la parole. J'ai dit, si l'importance, c'est les paroles, quel intérêt d'abord faire des corbanotes avant?
C'est une très bonne question. On va parler la semaine prochaine. D'accord. La parole de Dieu, pourquoi la parole, pourquoi l'action, etc. Ah bon. Mais en tout cas, je pense que ce qu'on a pu retenir, c'est important de retenir, parce que bon, c'est important d'arriver à une conclusion. La conclusion du chapitre 20, très belle conclusion. Si vous voulez plus longuement, vous avez en 12 chapitres de Shaar Eichut Ve'Emouna. Mais bon, déjà là maintenant, la conclusion qu'on a, à laquelle on est arrivé, c'est pourquoi le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Puisque quand on dit je suis l'Éternel ton Dieu, c'est pas seulement de dire il y a un Dieu. Non! Je suis l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est autour de toi, toi-même, c'est Dieu. Et c'est ça le Anochi Hashem Elokecha. Tout est dedans. Quand t'as compris ça, toute la Torah est dedans. Toute la Torah est résumée dans le premier commandement. Toute la Torah est résumée dans le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Réaliser que tout tourne autour d'Akadosh Baruch Hu. Réaliser que d'un côté j'existe. D'accord? Hashem Elokeinu, c'est mon Dieu, c'est-à-dire je suis là. Mais d'un autre côté, c'est Hashem qui gère tout, c'est Hashem qui maîtrise tout. On est insignifiant devant Akadosh Baruch Hu. Et donc automatiquement, quand on met son ego de côté, on arrive à prendre du recul et on arrive à aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans notre approche envers Akadosh Baruch Hu. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.
Mais tu remarqueras, Michael, que toute action est précédée de parole. La
c'est un autre thème, ça. On va développer la semaine prochaine.